Hello à tous, ici Pauline Aignot et bon retour ici avec moi sur le podcast. Je suis tellement contente de vous retrouver, vous m'avez manqué. La pause estivale est enfin terminée. Mais avant qu'on se lance vraiment dans l'interview passionnante du jour, vous allez voir, je voulais d'abord commencer par partager une information importante avec vous. Certains l'ont peut-être remarqué, Le Gratin, ce podcast, mon podcast change de nom et devient tout simplement mon podcast. Le podcast de Pauline Aignot. Alors vous allez dire, mais complètement mégalo, cette fille, c'est pas possible. Je vous rassure, j'ai pas changé en un été. Je me suis pas pris la tête là-dessus. Simplement, je me suis rendu compte que ce podcast, qui initialement prenait la forme de conversation avec des invités inspirants, est devenu en réalité bien plus que ça. Et grâce à vous en plus. Avec les leçons d'abord, puis avec le book club et tout ce que je vous prépare en surprise cette année. Je crois qu'il était vraiment temps que Le Gratin grandisse un peu. Et passe, si je puis dire, à l'âge adulte. Je crois bien que c'est le cas aujourd'hui et j'espère sincèrement que ce changement, vous le prendrez pas mal. Je sais que c'est jamais facile un changement, on met du temps à s'y habituer, mais je vous rassure, si le nom change, mon exigence sur la qualité des invités restera tout à fait la même. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire à ce sujet. On va pouvoir passer justement à l'invité du jour, une invitée que j'ai soigneusement choisie pour lancer la rentrée. Je voulais vraiment Hélène pour la rentrée. Donc il s'agit de Hélène Liebwig, qui compte parmi les femmes les plus expérimentées au monde dans le domaine de la transformation d'entreprise. Elle a exercé des responsabilités dans plein de domaines en tant que DG, directrice financière ou directrice des opérations. Ancienne associée dans le célèbre cabinet de conseil McKinsey, Hélène a aidé plus de 25 entreprises à se transformer et en 20 ans de carrière, elle a levé des centaines de millions de dollars de capital, renégocié des dettes pour plusieurs milliards et redressé des dizaines d'entreprises. Autant vous dire que j'avais plein de questions pour elle. D'autant plus qu'en 2018, et c'est vraiment le cœur de notre conversation, elle crée la fondation Reboot, qui vise à aider nos sociétés à développer leur raisonnement critique. En quelques décennies, le monde a radicalement changé et nous et nos enfants ne sont pas toujours équipés pour discerner le vrai du faux face à la surabondance d'informations. Voilà, pour terminer cette longue introduction, je voulais simplement vous dire que pour moi, le travail d'Hélène est vraiment d'utilité publique et j'ai été plus qu'honorée de pouvoir l'inviter sur le podcast. Je compte aussi sur vous d'ailleurs pour diffuser autant que possible cet épisode. Je crois qu'il le mérite, vraiment. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Hélène Liebwig. Bonjour Hélène, bienvenue sur le podcast.
Merci de m'avoir accueillie, Pauline.
Avec grand plaisir. Alors je te préviens, j'ai 1000 questions pour toi. Cette interview, ça va être difficile, que ça dure une heure. Et je voulais rentrer dans le vif du sujet directement, parler tout de suite de raisonnement critique, qui est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que c'est déjà, là, le raisonnement critique, la pensée critique?
Le raisonnement critique, il ne faut pas trop penser que c'est quelque chose d'abstrait, c'est juste de mieux penser. Mais une autre façon de réfléchir, la base, il y a quelque chose qui s'appelle métacognition, qui est à dire de la réflexion sur sa propre pensée en fait. Parce que ça nous aide à éviter les biais cognitifs, etc. Donc, c'est vraiment de mieux comprendre comment on réfléchit et où il y a les failles dans notre pensée. Une autre façon de réfléchir au niveau raisonnement critique, c'est l'opposé de selective thinking. Ça veut dire que le raisonnement sélectif. Et aujourd'hui, comme tu vois, Pauline, en particulier avec les réseaux sociaux, etc., on rentre dans un echo chamber, donc on rentre dans une situation où tout le monde pense de la même façon, etc., qui est quand même pas idéal, en particulier avec ce qui se passe dans le monde.
Comment est-ce que tu as été amenée à t'intéresser à ce sujet? Parce qu'on va en parler après, justement, tu écris beaucoup à ce sujet, tu t'es investie personnellement sur ce sujet avec la Fondation Reboot, mais comment est-ce que vraiment toi, physiquement, tu t'es dit à un moment donné, il faut que je fasse quelque chose et il y a un vrai sujet autour du raisonnement critique?
L'histoire est suivante. Ma fille Daphné, elle aura 11 ans cet été. Et j'ai créé la Fondation Reboot en 2018, vraiment suite à un événement que j'ai eu avec ma fille. Elle rentre de l'école et elle avait 10 phrases à écrire sur François Ier. Donc, elle m'a demandé mon ordinateur, donc je l'ai observé. Elle est allée directement sur Internet Explorer. Elle va chez Wikipédia, elle a cliqué sur Wikipédia elle lit quelques phrases sur François 1er, elle sort son cahier et commence à écrire. Bon, elle n'a pas copié-collé, heureusement.
C'est bien.
Mais néanmoins, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est qu'elle avait deux livres sur François 1er dans sa chambre, dont un, je savais qu'elle a déjà lu. Donc, j'ai posé la question à Daphné en disant, mais pourquoi tu ne regardes pas ton livre que tu as déjà lu sur François 1er pour ton devoir? Et elle m'a dit, maman, tu es tellement stupide. C'est beaucoup plus rapide si je regarde sur Wikipédia pour écrire 10 phrases. Donc, en fait, ça m'a fait une réflexion comment les enfants aujourd'hui apprennent très différemment de notre génération. Nous, qu'on avait des devoirs, une question à poser, on n'est même pas allé soit dans la bibliothèque ou même les encyclopédias, etc. Et aujourd'hui, c'est la réalité. Même nos enfants, 90% de renseignements qu'ils cherchent, c'est par Internet. Donc, je me demandais, qu'est-ce que je fais différemment au niveau enseignement pour ma fille avec ce phénomène? Et ma réponse était, je ne faisais rien différemment. Donc, je commençais à faire des recherches en disant qu'est-ce qu'il faut faire attention, etc., dans le monde digital, parce qu'objectivement, c'est quand même quelque chose, un phénomène assez nouveau. Et j'ai lu 300 articles disponibles sur pourquoi l'iPad, l'iPhone, l'écran, les tablettes sont mauvais pour les enfants, mais pas forcément au niveau éducation, qu'est-ce qu'on doit faire différemment. Et donc, j'ai commencé à m'interroger et au final, ce que j'ai vu, c'est que il faut très tôt donner l'outil pour les enfants dans le raisonnement critique à cause de l'effet que tout ce qui est sur Internet et le monde digital force les gens à être des gens de mieux consommateurs de renseignements. Et pour faire ça, il faut vraiment des applications de raisonnement critique. Et avec ça, je me suis rendu compte que ce qui est disponible pour les outils pragmatiques, y compris pour les adultes, ne sont pas vraiment disponibles dans le domaine de raisonnement critique. Et à l'école, on ne fait quasiment pas.
Oui.
Donc, c'est ça qui a mené vraiment la création des fondations, parce que je me suis dit, si moi, tant que maman, je n'ai pas l'outil et j'ai besoin d'aller chercher, si on peut rendre ça disponible facilement pour les parents et pour les enseignants, est-ce que ce n'est pas mieux? Et c'était grâce à ça qu'on a créé la Fondation Reboot en 2018, en fait.
C'est assez fou comme histoire quand même. Et du coup, je comprends que c'est très lié à l'éducation pour toi.
Ouais.
Mais au final, ça s'étend en réalité même à des adultes. C'est ça qui est encore plus fou peut-être. Ça me rappelle le fait que, pour partager une mini anecdote personnelle, je le fais pas souvent, mais quand apparemment mes parents m'ont envoyé à l'école, ils hésitaient entre plusieurs écoles et ils sont tombés sous le charme d'une directrice d'école qui leur a dit « Nous, dans notre école, on n'apprend pas aux élèves à apprendre par cœur, on apprend à apprendre. » Et j'ai trouvé que c'était très intéressant et effectivement, je constate que moi, l'éducation que j'ai eue et mes parents ont fait c'est vraiment cet effort, c'était toujours de me poser des questions, de m'apprendre en fait à un petit peu avoir donc ce raisonnement critique, quoi, mettre en cause, on va dire, certaines choses. Et j'ai le sentiment que c'est pas toujours le cas dans l'éducation parce qu'en fait, il y a beaucoup de connaissances plus que de raisonnement. Est-ce que c'est quelque chose, sans vouloir, tu vois, être non politiquement correct ou quoi que ce soit, mais est-ce que c'est quelque chose que tu constates dans le système éducatif français, international, peu importe à la rigueur, qui est qu'aujourd'hui, il y a un sujet vraiment au niveau de l'éducation, qui est que l'éducation, c'est pas juste de la connaissance brute, mais c'est du savoir-vivre, c'est du savoir-réfléchir, en fait.
Absolument. Je crois qu'avec toutes les pressions que les différents gouvernements donnent à l'éducation nationale, on est devenu beaucoup plus un standardized test, en fait, les examens standardisés. Et avec ça, les professeurs dans les écoles, ils se sentent qu'ils n'ont pas la disponibilité du temps. Donc, c'est vraiment devenu une machine de donner, de faire apprendre par cœur les renseignements qui est probablement exactement opposé de ce que la société a besoin. Aujourd'hui, les machines vont retenir facilement les renseignements mille fois mieux que nous.
C'est clair.
Et ce qu'ils cherchent même des sociétés, donc côté travail, c'est souvent cité parmi les trois critères les plus importants, c'est raisonnement critique. Il y a créativité, il y a comment les gens fonctionnent avec les autres, etc. Mais souvent, quasiment toujours, le raisonnement critique est cité parmi les trois choses plus importantes. Et il y a des recherches qui montrent que les gens qui font raisonnement critique bien, ils vivent mieux aussi, donc ils sont moins endettés. Il y a vraiment des statistiques et des études autour de ça. Donc, pour revenir aux écoles, etc., je crois que la pression fait en sorte que les renseignants, qu'ils auront moins de temps, etc. Mais en réalité, on doit faire l'inverse. Et ce qui est également difficile, c'est que souvent les profs me disent ils ont du mal à savoir comment mieux renseigner raisonnement critique à l'âge approprié. Et la réalité du raisonnement critique, il ne faut pas faire un cours à l'université de 6 semaines. En fait, c'est très lié avec quand même le contenu aussi. Donc, il y a une façon d'apprendre de faire raisonnement critique avec le sujet de maths, de sciences, de l'histoire. Donc, c'est plutôt une intégration de comment mieux intégrer pour chaque sujet. Néanmoins, il y a quand même une base qui est liée avec l'histoire dont tu as raconté, Pauline. C'est que déjà à la base, de poser des questions qui n'ont pas une réponse, donc on dit en anglais « open-ended questions », de commencer à réfléchir au niveau comment nous-mêmes nous réfléchissons, notre propre pensée, donc la métacognition, la curiosité, tout ça, ça donne les bases et les building blocks pour les gens à mieux faire raisonnement critique. Donc tout ça, c'est important. Notre élément qui est très important qu'on oublie, c'est la gestion des émotions, même tant qu'adulte. Si on est fâché, c'est très difficile de faire raisonnement critique et même le bon échelle de logique. Donc, pour les enfants également, dans l'éducation, la gestion des émotions, par exemple, que les parents peuvent faire tous les jours avec les enfants, ça, c'est également important parce que sans ça, c'est très difficile de faire le raisonnement critique également.
Donc, concrètement, toi, si on prend ton exemple personnel, avec Daphné, depuis que tu t'es intéressée à ce sujet, tu sens que tu as changé ton comportement et que maintenant tu es plus attentive et peut-être que, je sais pas, tu la challenges différemment justement pour lui développer son raisonnement critique?
Bon, l'avantage d'avoir une fondation qui est sur raisonnement critique, c'est qu'elle entend chaque fois. Et je ne cache pas, j'ai fait un TED Talk et parce que c'était en français qui n'est pas ma langue maternelle. Je crois que j'ai fait répétition de 100 fois elle. Donc, elle connaissait quasiment mon TED Talk elle-même. Maintenant, l'autre sens, c'est que de temps en temps, quand je demande à ma fille de faire quelque chose, je critique, elle me dit « Mais maman, ça, c'était pas raisonnement critique que tu viens de faire à moi. »
Donc, maintenant, elle te coach.
Exactement. Donc, j'apprends de elle. Mais la réalité, c'est que oui, absolument, la façon dont j'aborde ces sujets avec ma fille a énormément changé. Parce que ce qui est bon, il y a des choses qui sont basiques et même nous dans notre quotidien qu'on n'a pas le temps, le 15 minutes, le 20 minutes dans la voiture ou même à table au dîner, de continuer à poser des questions, même la question pourquoi et pourquoi tu réfléchis à ça, est-ce que tu as réfléchi le contre-proposition vis-à-vis ton argument et ton avis. Juste quelques questions comme ça, ça mène la réflexion des enfants jusqu'au bout. Et donc, je crois que ça on peut faire tous les parents dans le quotidien avec les enfants et même avec nos conjoints, nos maris, nos espouses.
Bien sûr. Justement, je voulais te poser des questions parce que j'aime bien donner des conseils pratiques. En tout cas, que mes invités donnent des conseils assez pratiques à nos, voilà, à notre audience. Et donc, en fait, concrètement, si jamais tu es parent ou juste tu te dis, j'ai envie, moi, d'élever, de développer mon raisonnement critique, parce que je pense que finalement, tout le monde a plutôt intérêt à le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire, quoi, concrètement? Il faut faire quoi? Ouais.
Donc, d'abord, la première chose, c'est l'ouverture de toujours réfléchir un peu leur antithèse.
Donc, se mettre à la place de l'autre personne et se dire...
Exactement. Donc, un des sondages que la Fondation Reboot a fait en France et aux États-Unis, et je vais parler pas mal aujourd'hui aux États-Unis parce que on écrit beaucoup aux États-Unis uniquement parce que le marché est plus grand, il y a 350 millions de personnes. Donc, c'est vrai que on fait la plupart de nos études en France et aux États-Unis.
D'accord.
Un de nos premiers sondages de Fondation Reboot, on a fait un sondage de plus de 1000 personnes assez représentatives aux États-Unis et en France. Plus de 25% des gens, ça c'est avant le COVID, évitent les gens qui ont des pensées opposées à eux-mêmes.
Un quart de la population.
Voilà. Donc, c'est même pas qu'ils n'aient pas parlé, c'est qu'ils vont éviter d'avoir une interaction avec des gens qui ont des pensées opposées.
Ouais.
Et ça se voit dans le drame, un peu la politique, etc. Mais encore une fois, je parle, ça c'était un sondage avant le COVID, où on était quand même, on avait des dîners, etc. Donc, je crois que ça c'est le premier point que les gens doivent être conscients au niveau raisonnement critique, que eux-mêmes, il faut qu'on a tout le monde, nos propres insécurités, nos biais et nos avis. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable et c'est beaucoup plus facile de juste valider nos convictions. Mais si on commence à poser des questions vis-à-vis de nos propres convictions, ça, c'est une façon d'une meilleure pensée, en réalité. Et ça peut enrichir un peu, encore plus nos arguments aussi. La deuxième chose, c'est de faire un petit pause. Aujourd'hui, dans le monde digital, on est tellement dans le addiction immédiate, réaction, tout doit être disponible très, très rapidement. Mais ça impacte quand même notre raisonnement aussi. Donc, de faire une pause, et je ne parle même pas de faire une pause de iPhone, etc. Je parle vraiment de faire une pause. C'est la raison pour laquelle maintenant il y a plus de gens qui font méditation, même un petit jogging, où on se pose et les questions, il faut remouliner. Donc, poser des questions vis-à-vis de nos hypothèses en général. Et après, bien évidemment, pour faire un meilleur raisonnement critique, c'est de réfléchir la logique. Et ça, même si on avait appris différentes méthodologies de la logique à l'école, même tant qu'adulte, c'est pas mal de faire un petit refresher de ça, parce qu'on fait tous des biais confirmation, qui est quand même grave dans le monde actuel, mais d'autres logiques qu'on ne pratique pas. Et après, la troisième chose, c'est on parle beaucoup de diversité, on parle beaucoup de maintenant avec RSE, etc., dans les sociétés, dans le monde du travail. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'on reste quand même des amis, des proches, avec des gens qui réfléchissent, qui sont un peu dans notre propre univers.
Oui.
Et il faut avoir plus d'ouverture et il faut être très, il faut être conscient de ça. Parce que c'est ça qui va nous aider à mieux réfléchir également.
Et notamment via l'art, par exemple, via en fait des personnes qui sont des personnes qui exercent souvent un raisonnement critique assez poussé. Donc s'entourer aussi peut-être de personnes qui, c'est pas toujours facile parce que c'est souvent des personnes un peu contrariennes qui ont tendance à dire non, à chercher la petite bête. Parfois ça met mal à l'aise parce qu'on a tous cette envie en fait, parfois je pense d'éviter le conflit. Ouais. Aussi. Et donc, j'imagine que, en fait, essayer de s'entourer de personnes un peu plus comme ça, même si parfois ça met mal à l'aise, c'est aussi une source de raisonnement critique, quoi.
Absolument. Et parce que ça donne une ouverture. Et on dit souvent, même dans une société, si vous êtes quelqu'un qui travaille dans l'équipe de marketing, mais faire un déjeuner avec quelqu'un dans l'équipe de comptabilité, pourquoi pas. Donc, vous voyez, même dans le travail, d'avoir l'ouverture, donc ça, c'est en petite échelle. Et comme tu viens de dire, Pauline, des univers différents à toi, ça va mener à une réflexion. Quelqu'un qui est totalement trop cartésien, peut-être, en effet, de voir quelqu'un qui est un peu plus artiste et réfléchir au niveau réflexion. C'est ça qui va nous nourrir côté pensée.
Alors, j'ai une question légèrement philosophique pour toi que je me pose de temps en temps. C'est que, de temps en temps, moi, j'ai personnellement pas envie de changer d'avis. Parce qu'au fond, je me dis, j'ai raison, j'ai une conviction. Et je trouve que du coup, une grande difficulté d'exercer ce discernement et cet esprit critique, c'est de s'autoriser à changer d'avis. Est-ce que tu vois ce que je veux dire peut-être? Et est-ce qu'en fait, quelle est la limite si tu veux? Parce qu'à un moment donné où on peut se dire, bah, si jamais en permanence je suis dans le relatif et je vais m'ouvrir, bah, j'ai plus de conviction, je sais plus qui je suis. Enfin, tu vois, t'es dans le doute permanent, quoi. Et donc, je me pose souvent cette question, je me dis, j'ai envie d'être quelqu'un qui est ouvert d'esprit parce que je vois bien les ponts que ça peut apporter. Et en même temps, bah, j'ai un peu peur aussi de tellement m'ouvrir que finalement, je deviens complètement invertébrée.
Bon, Pauline, si tu as peur de ça, ça veut dire que tu as un esprit tellement ouvert que la probabilité que tu vas désintégrer avec tes convictions, c'est quand même minima.
Bon.
Objectivement, il faut quand même réfléchir. Là, juste parce qu'on réfléchit à une position opposée ne veut pas dire que notre conviction va être diluée. Le contraire, ça peut peut-être même nourrir nos convictions avec des meilleurs arguments parce qu'on a des faits qu'on n'aura pas peut-être cherché. Donc, de vraiment interagir et réfléchir avec une contre-proposition n'est pas forcément de dire qu'on va diluer nos convictions. Maintenant, un peu les blagues français-américains ont dit souvent, c'est que les Français, on réfléchit trop, on ne prend pas des décisions, il n'y a pas de résultats. Et que les Américains, c'est juste les résultats. Bon, je crois que, encore une fois, c'est trop généralisé et c'est pas la réalité. Mais dans le bon réflexion, raisonnement critique également, il faut savoir le fameux 90-10. Donc ça, c'est un autre élément qu'on peut pratiquer dans tous les jours, qui est, on n'a pas besoin d'avoir 100% les faits et les renseignements pour prendre une décision. Donc, il faut savoir, ça c'est un entraînement, en particulier dans le travail, qui est à quel moment est-ce que j'ai suffisamment des éléments, des renseignements qui me donnent suffisamment de confiance que mes convictions sont légitimes, qu'on ne va pas aller jusqu'au 100%. Donc, dans ma carrière, comme tu sais, Pauline, j'ai fait beaucoup de retournements des sociétés en difficulté. Déjà, quand on arrive dans une situation comme ça, il n'y a souvent même pas les résultats des comptes qui sont mis à jour, etc. Donc, c'est déjà très difficile d'avoir même les chiffres d'affaires, les résultats de la société, etc. Donc, c'est le moment, mais néanmoins, juste de prendre des décisions avec « gut feeling ». Donc, ça veut dire que juste avec notre propre sentiment, ça ne suffit pas. Donc, il faut analyser. Mais il faut savoir, donc ça c'est un des atouts également du raisonnement critique, de savoir à quel moment on a suffisamment de points de data pour arriver à prendre une décision, qui est un peu lié avec cet élément de contre-proposition, etc., pourquoi ça ne va pas forcément nuire nos convictions.
C'est très intéressant ce que tu dis, Hélène, parce que je sais que tu as donc passé effectivement dans le retournement et aussi dans la finance. Et je pense que l'image d'Épinal du financier, c'est quelqu'un qui est très data-driven, qui va uniquement regarder, analyser les chiffres et qui prendra sa décision quand tout va converger et qu'il aura une certitude. Et d'après ce que je comprends, ce que tu dis, c'est que notamment dans le métier du retournement, on n'a jamais de certitude à 100% et qu'à un moment donné, il faut juste prendre la décision. Est-ce que tu aurais un exemple dans ta carrière, justement, d'une fois où, vraiment dans le détail, tu pourrais nous raconter une décision que tu as dû prendre, une décision du coup difficile, parce que tu n'avais pas toute l'information, mais qu'à un moment donné, il fallait choisir. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir, bah, du coup, comment est-ce que tu as su que c'était le moment où il fallait prendre la décision?
Bon, dans des sociétés en difficulté, le temps est aussi important que la décision. Donc, je dis souvent dans ce métier, il vaut mieux avoir tort 10%, 20% de temps que de ne pas prendre la décision du tout. Parce que dans ce cas-là, la société, c'est trop tard, elle est probablement morte. Donc, il y a un élément qui est la course contre le montre. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, il faut toujours avancer que d'être figé parce qu'on n'a pas tous les data. Maintenant, un exemple concret. C'est le plus difficile, c'est quand, si c'est de réfléchir, est-ce que il y a un produit qui n'est pas assez rentable, on arrête le produit, etc. Ça, c'est peut-être moins difficile. Ce qui est très difficile, c'est quand on décide de prendre, vraiment changer la stratégie de la société.
Yeah.
Parce que ça implique plein de choses qu'il y a de risques. Donc, c'est le moment que les gens hésitent énormément. Parce qu'ils n'ont pas la certitude, etc. Et moi, j'ai une histoire dans le domaine qui est dans la production de lingerie, littéralement, les soutiens-gorge, que cette société avait mal capté. C'était vraiment ce qu'elle cherchait l'audience. Donc, il y avait une hypothèse à l'origine que les Anglais, les Français, les Italiens, ils achetaient un peu les mêmes styles de soutien-gorge et c'était plutôt vis-à-vis la tendance et la mode qui étaient différenciés. Mais néanmoins, on a fait quand même les focus groups et les vraies études qui montrent que culturellement, les Italiens et les Français n'achètent pas du tout les mêmes soutiens-gorge, par exemple.
D'accord.
Donc, c'est ce genre de choses. Il y a quand même quelques analyses clés pour décider s'il faut faire un changement majeur ou pas. Mais je crois que l'importance, c'est vraiment de accepter que il faut avancer, il ne faut pas rester sur place parce qu'on n'a pas tous les éléments de fait.
Une autre question pour toi, du coup, c'est que si toi, tu peux accepter cette situation, ensuite, il faut aussi fédérer l'équipe autour, dans le cadre d'un retournement d'entreprise, en plus, elle est en difficulté, donc tout le monde est un peu en panique, il y a beaucoup d'émotionnel, je peux imaginer. Il faut réussir à faire en sorte que les personnes peut-être qui étaient encore présentes de l'ancienne entreprise, on va dire, acceptent justement ce nouveau saut dans l'inconnu. Est-ce que là aussi, tu aurais des exemples ou juste une manière de me raconter comment, une fois que toi, tu t'es forgé cette conviction, même si elle est basée voilà, sur des faits quand même encore pas totalement 100% valide. Comment est-ce que tu fais pour réussir à partager cette conviction et à fédérer l'équipe autour de toi?
D'accord. Bon, d'abord, quand il y a 100 points à aborder avec une équipe, vous fédérez personne. Parce que personne ne soutient pas les 100 points. Donc d'abord, il faut être côté les plans d'action et la mission et ce qu'on souhaite aborder. Moi, je dirais, il faut qu'on puisse compter ça dans les deux mains. Encore mieux si on peut compter dans une seule main. 5 à 6 points, les gens retiennent. Plus que ça, c'est très difficile. Donc, avec l'équipe, il faut vraiment définir et prioriser c'est quoi les 4-5 points qui sont le plus important et aligner l'équipe pour que tout ce qu'on fait, c'est pour avancer avec ces 5 points. Donc, c'est plutôt la définition et la priorisation qui aide et réunit l'équipe parce que, en général, en particulier pour une société en difficulté, les salariés, les employés savent depuis toujours qu'il y avait un problème.
Mm.
Maintenant, la difficulté, c'est que on n'a pas trouvé une solution pour avancer ou on a hésité. Donc, pour vraiment mobiliser l'équipe, je crois que l'important, c'est de bien définir et prioriser les 4-5 points, bien communiquer qu'est-ce que ça veut dire concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire, et après avancer ensemble. Et dans ce cas-là, vous avez beaucoup plus de mobilité et adhérence et solidarité avec vos équipes.
Pour les faire adhérer, pour créer cette solidarité, est-ce qu'il y a une nécessité aussi de communiquer en volume, c'est-à-dire pas, tu vois, le dire une seule fois, mais vraiment aller parler aux gens? Enfin, je me pose souvent ces questions parce que je me dis, quand tu changes complètement de stratégie, voilà, il y a forcément un moment donné où les gens, il y a un refus de changement, même ouais. s'ils savent qu'ils sont en difficulté. Et toi, c'est ta spécialité, le changement, justement. Donc, comment humainement, finalement, ouais. tu arrives, surtout sur des personnes parfois qui sont moins impliquées, justement, dans la
Bien
stratégie
sûr. Oui, donc il y a le volume, mais plus important que ça, chaque personne vit le changement différent. Bon, les gens en général n'aiment pas trop le changement, ça c'est notre nature humaine. Mais même pour préparer un changement, chacun a un intérêt différent, chacun a sa façon de réfléchir différent. Donc c'est vrai qu'il faut un peu une communication adaptée pour chaque personne également. Et pour les gens à vraiment changer comment ils travaillent, il ne faut pas juste expliquer votre métier a changé de A à Z, il faut profondément changer la façon dont ils réfléchissent et comment ils vont aborder. Donc, en effet, on dit souvent pour les changements, c'est comme le glacier. On voit la partie qui est sous l'eau, mais en réalité, ce qui est beaucoup plus lourd, c'est ce qui est sous l'eau. Et c'est ça qu'il faut quand même travailler, en fait.
Juste pour peut-être être assez spécifique avec notre audience, je trouve que ça serait hyper intéressant si tu avais un exemple, tu n'es pas obligé de citer de nom d'entreprise, hein, bien sûr, mais si tu as un exemple d'une transformation qui aurait été faite, dont tu as été peut-être particulièrement fière, dans le cadre de l'un de tes retournements, redressements d'entreprise.
J'en ai fait tellement que...
Il n'y en a pas une.
Je crois que... je n'ai pas trop cité les noms des sociétés, mais je crois que pour moi, ma fierté, le résultat est important et ça se parle, mais moi, je trouve quand même... avec un plan social, si avec les syndicats, on arrive à vraiment mener la vision moyen terme, 3 à 5 ans, et qu'on est réunis et on se signe, ça pour moi, ça montre que vraiment, côté communication, côté vision, et côté la logique de modèle économique, on a réussi. Parce que ça veut dire que les gens qui sont dans la société, qui vivent de tous les jours, ils ont accepté que ce changement est nécessaire. Donc, en effet, de symbole de est-ce qu'une transformation est réussite ou pas, c'est souvent qui sont les influenceurs et les adhérents qui acceptent nos visions. Donc, parmi eux, par exemple, les syndicats de société.
Est-ce que le changement nécessite forcément beaucoup de temps? Parce que quand tu me donnes cette image de l'iceberg et je visualise toute la partie émergée là, sous l'eau, je me dis bah, y a tellement de volume et il faut tellement aller en profondeur que forcément, ça doit nécessiter du temps de changer, comme tu le disais, des comportements ou des raisonnements. Est-ce que, du coup, le changement profond nécessite forcément du temps? Ou est-ce qu'au final, si jamais on a le bon discours, si jamais on a le bon raisonnement, si jamais on a la bonne empathie, on peut finalement réussir à emmener, à fédérer des gens autour d'un changement plus rapidement qu'anticipé?
Il y a un autre élément dont on n'a pas évoqué, c'est l'environnement. Donc, je crois qu'il n'y a pas une seule société, une seule famille qui n'a pas réagi radicalement différemment pendant cette période de COVID. Parce que quand on était chez nous, etc., même dans une famille, on était obligé de nous adapter comment les enfants vont travailler différemment, même les repas, etc. Donc, je crois que l'adaptation pour le changement, de temps en temps, si l'environnement force, on est quand même des gens qui sont capables de changer. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour les sociétés en difficulté, l'environnement est en sorte qu'il y a un côté presque plus facile pour le changement parce qu'on n'a pas le choix. Maintenant, quand la société va très bien, etc., c'est vrai qu'essayer de changer, c'est un peu plus compliqué parce que ça revient sur la partie communication, parce que les gens ne comprennent pas forcément la raison pour laquelle on doit changer.
Oui.
Pendant le Covid, tout le monde s'est adapté, tout le monde a changé. Donc, de dire que les gens, ça prend du temps, je crois que c'est plutôt une question de situation et l'environnement plus que d'autres choses. Maintenant, côté plus profond, on s'est tous adaptés, mais il y a quand même des séquelles. Donc, ce qu'on ne parle, on parle un peu moins, mais pendant cette période de Covid, notre santé mentale, il y avait quand même des impacts importants pour les adultes autant que les enfants. Et ça, c'est vrai qu'il faut qu'on parle plus parce que c'est quelque chose qui reste post-Covid également, dont une partie, à mon avis, est l'avis de Fondation Reboot, qui était impactée à cause des réseaux sociaux aussi.
Oui. Alors, tu me fais une belle transition pour parler de ça. Je voulais évoquer avec toi certains articles que tu as écrits, parce que je sais que tu contribues beaucoup à Forbes, notamment. Donc, ce sont des articles en anglais, j'en mettrai d'ailleurs dans les liens du podcast. Et il y en a un que j'ai trouvé vraiment intéressant à propos des fake news, qui est un sujet, j'ai l'impression, qui t'intéresse beaucoup, et notamment vis-à-vis de TikTok, et donc d'une génération plus jeune, qui potentiellement est peut-être plus fragile aussi, encore que quand on voit Facebook, à quel point des personnes aussi âgées, enfin, j'ai l'impression que les extrêmes sont souvent plus sensibles. Qu'est-ce qui t'a mené à écrire cet article et est-ce que tu peux nous partager en deux mots, quelles sont les choses en fait que tu expliques?
Ouais. Donc, la Fondation Reboot, à l'origine, comme je viens d'expliquer Pauline, était vraiment de faire la recherche autour de comment on peut mieux renseigner raisonnement critique pour les adultes et pour les enfants par le biais des parents et les écoles. Mais depuis 2 ans, probablement un peu lié avec les éléments des élections aux États-Unis, etc., que misinformation, fake news est devenu beaucoup plus grave et impactant. Pas uniquement à la politique, mais pour la société. Et c'est la raison pour laquelle on a dédié pas mal d'argent dans la recherche également autour de comment on peut se battre contre le fake news. Il y a quand même un lien avec le raisonnement critique. Parce que quand les gens font moins de raisonnement critique, ils sont plus susceptibles aux fake news. Donc, fake news est plutôt un symptôme de manque de raisonnement critique.
Bien sûr.
Et ça, combiné avec l'éducation de media literacy, de comment on peut mieux lire des articles, regarder pour voir qui est l'auteur.
Avoir du discernement sur ce qu'on lit, quoi.
Exactement. Donc, il faut vraiment essayer de devenir les meilleurs consommateurs de médias. Mais en revenant sur le problème de TikTok, etc., aujourd'hui, il n'y a aucune loi au niveau de l'âge de quand les enfants pourraient utiliser TikTok, etc. Et c'est vrai qu'on pense que c'est des petites vidéos que les gens dansent, etc., et on poste. Mais c'est bien plus grave que ça. Parce que même dans TikTok, il y a quand même des sujets politiques, renseignements, y compris sur COVID, qui sont diffusés en TikTok. Et quand les enfants n'ont pas les outils pour discerner les médias et qui n'ont pas l'habitude de raisonnement critique, si c'est un influenceur qui l'apprécie, ils vont quasiment accepter ça comme c'est un fait et pas un avis. Donc, c'est là où je trouve que le monde des réseaux sociaux est devenu très dangereux. Et il y a une autre étude qu'on vient de sortir il y a quelques semaines. Donc, on fait un sondage chaque année. Et cette année, on a fait un sondage autour de, toujours autour de raisonnement critique, mais également, on a posé une question, l'impact et l'importance des réseaux sociaux pour notre communauté qu'on a fait le sondage. 50% des gens qu'on avait fait un entretien a dit que leur santé mentale, dépression, anxiété, insécurité, a augmenté depuis COVID et avec plus d'utilisation de réseaux sociaux. Donc, ils avouent que les réseaux sociaux a impacté leur santé mentale. Néanmoins, les mêmes personnes qu'on a fait cet entretien a dit il y a plus de 40% qui ont dit ils ne vont pas dénoncer leurs réseaux sociaux, même si ça veut dire d'échanger avec leur voiture ou leurs animaux domestiques. Donc ça veut dire ils préfèrent garder leurs réseaux sociaux que leurs chiens. 40%.
Ah ouais.
Et plus de 70% des gens qu'on a fait l'entretien, qui est quand même représentative aux États-Unis, ont dit même pour 10 000 dollars, ils ne vont pas dénoncer les réseaux sociaux. Donc, l'addiction qu'on a aujourd'hui, malgré les faits, c'est la même communauté qui ont dit que ça, plus de 50% ont dit ils savent que ça dégrade leur santé mentale.
Donc, c'est vraiment le terme d'addiction est correct au sens où quand tu sais que ça dégrade quelque chose en toi, mais que tu veux quand même continuer à le faire, enfin, il y a un problème, quoi, assez clairement.
Donc, bien évidemment, pour les enfants, c'est encore plus grave.
Et c'est le cas autant en France et aux États-Unis et sur différentes tranches d'âge où il y a vraiment des populations qui sont plus à risque que d'autres.
Donc, ça, c'est représentant que aux États-Unis, on a fait le sondage de 1000 personnes, mais j'avoue que le dernier sondage qu'on avait fait, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de différence entre la représentation américaine et française. On va faire le même sondage en France pour voir, pour vérifier. Mais cette partie au niveau de 10 000 dollars, le chien, etc., ça, c'est en effet le sondage qu'on avait fait aux États-Unis.
C'est assez marquant hein, quand même.
Oui.
Et alors, du coup, en tant que parent, toi, c'est quoi, du coup, je suis désolée, je suis obligée de te poser la question, mais c'est personnel, mais c'est quoi finalement ton attitude vis-à-vis des réseaux sociaux, notamment vis-à-vis de Daphné. Comment est-ce que tu fais pour... Voilà, enfin, il y a une réalité, c'est que ça a aussi plein d'avantages, ça permet de communiquer avec ses amis, ça peut permettre de développer des business, etc. Mmh. Mais tous les inconvénients qu'on connaît. Et donc, comment est-ce que tu fais y réfléchir?
Donc déjà, pour Daphné, bon, elle a 10 ans, donc elle n'a pas trop de résistance, pas encore, mais elle n'a pas le droit de TikTok, elle n'a pas de réseaux sociaux. Elle a le droit de WhatsApp pour communiquer avec ses copines qu'on peut vérifier, en effet. Mais tout ce qui est réseaux sociaux, elle n'a pas le droit. Et bon, elle a suffisamment lu mes articles qu'elle a compris à peu
Je
près.
Je pense qu'elle est entre de bonnes mains, c'est sûr.
En tout cas, la raison pour laquelle on dit qu'elle n'a pas le droit. Donc ça c'est le premier point. Mais objectivement, je crois que déjà... la réalisation et la connaissance des gens qu'ils sont très ciblés et ils sont susceptibles d'influence de réseaux sociaux, ça c'est déjà un autre pas qu'il faut creuser. Parce que côté awareness, la sensibilisation, c'est déjà un grand pas important. Et après, une autre chose qu'on avait fait comme étude au niveau Fondation Reboot, on voulait savoir si les gens apprennent à mieux cerner fake news, par exemple, est-ce qu'ils améliorent après avoir lu un article ou regardé une vidéo, comment on peut mieux cerner fake news, est-ce qu'il y a une amélioration derrière? Et nos recherches montrent que oui. Donc ça, c'est le côté bonne nouvelle. Ça veut dire que même tant qu'adulte, même si on pense qu'on sait qu'il faut regarder les auteurs, etc., on oublie en réalité parce qu'on est dans l'immédiateté toujours. Donc, si même les adultes, on est conscient, on lit un article, on regarde une vidéo pour voir comment on peut mieux identifier fake news, c'est un autre bon élément pour que les gens deviennent un meilleur consommateur de médias, y compris les réseaux sociaux. La troisième chose, bien évidemment, nous pourrons tous faire détox de réseaux sociaux, etc. C'est important, c'est un peu comme la pause, donc j'ai expliqué au niveau raisonnement critique, ça c'est nécessaire. Mais nous, tant que Fondation Reboot, on est un peu plus ambitieux que ça en notre façon, parce que je crois qu'il faut, il y a un côté obligation politique également vis-à-vis des réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire précisément? On travaille beaucoup dans la partie privacy au niveau droit, mais je crois qu'on travaille moins dans c'est quoi que les réseaux sociaux, ils ont le droit de citer ou de monitorer, etc. Donc, un des mouvements avec en particulier l'administration Biden aux États-Unis, il y a quelque chose qui s'appelle le Safe Tech Act, qui n'est pas encore passé, mais qu'il y a beaucoup de débats, qui veut dire que, en fait, aux États-Unis aujourd'hui, et c'est pareil en France, les médias publications, ils sont quand même responsables pour le contenu parce que c'est eux qui ont créé. Mm-hmm. Les plateformes, ils n'ont aucune recours s'ils publient quelque chose, même si c'est faux. Parce que eux, ils disent, c'est pas nous qui créons le contenu, on n'est que de plateforme. Donc, le Safe Tech Act, ils ne sont pas allés jusqu'au bout pour dire que les réseaux sociaux sont responsables pour le contenu, mais ils disent que si ils postent des choses où ils gagnent l'argent, il y a une source de revenus, dans ce cas-là, ils sont responsables pour le contenu.
Ah, c'est intéressant.
Donc déjà, ça peut mener une grosse partie parce que le problème avec les réseaux sociaux, c'est leur modèle économique. En fait, même si c'est pas uniquement le côté addictif, mais pourquoi c'est addictif? Parce que leur algorithme est fait pour jouer avec nos émotions. Ça revient à notre discussion au début. Quand on ne gère pas nos émotions, on ne peut pas faire raisonnement critique. Mmh. Donc, en réseaux sociaux qui délibérément essaient de jouer avec nos émotions pour faire peur, etc. Pourquoi? Parce que quand on a peur, on a plus d'émotions, on va rester sur le site et leur plateforme plus longtemps. Et en ayant les yeux plus longtemps sur les plateformes, où ils gagnent plus d'argent. Parce qu'il peut nous pomper plein de pubs, etc. Donc, c'est un cercle vicieux. Et un autre élément qui est important, on parle maintenant beaucoup de théories conspiratives, etc. La réalité, c'est que les groupes un peu problématiques,
extrêmes, etc.,
plus de 60% sont proposés, par exemple, par Facebook à nous. C'est pas nous qui ont cherché entrer dans ce groupe. Donc, vous voyez ce cercle, etc.
Et donc, toute personne fragile qui est soumise à ça, hop, va tomber dans le ouais. truc, quoi.
Donc, on parle aujourd'hui la taille de GAFA, etc. Mais je crois que le vrai sujet, c'est quand même, il y a une obligation de monitoring et en tout cas quelques limites et cadrages côté renseignement. Une autre façon qui est très importante, pourquoi Facebook ne dit pas à nous que quelque chose est sponsorisé, que quelque chose... Vous voyez, donc en fait, je crois que... Et ils sont... Si vous cherchez même dans votre paramétrage, etc., l'explication de leur algorithme, de comment ils poussent pour jouer avec nos émotions, il n'y a rien.
Mm.
Donc, je crois que la transparence est également très important. Il faut que côté politique, il faut pousser ça encore plus, en fait.
Et avoir conscience aussi en tant qu'utilisateur de tout ce phénomène, et notamment aussi du fait que les réseaux sociaux nous joue sur notre biais de confirmation, on t'en parlait. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a une fois cliqué sur une image, on l'a tous vécu de, je sais pas, tel article. Ensuite, hop, on se prend tous les articles qui vont aller jouer sur les mêmes mécanismes de réflexion. Et donc, bah voilà, en fait, on a l'impression du coup de rentrer finalement dans un système qui se confirme. Alors que non, c'est juste une bulle. Et ce que je trouve très intéressant, c'est de prendre le téléphone et le compte Instagram, Facebook, etc. de quelqu'un de différent de nous.
Ouais.
C'est très instructif.
Ouais.
Parce qu'on se rend compte, en fait, on n'a pas du tout les mêmes pubs et les mêmes choses qui sont mises en avant.
Absolument.
Et ça, c'est assez fou quand on y pense.
Absolument.
Pour terminer, Hélène, je voulais quand même parler un petit peu de... Alors, on a parlé très peu de ton parcours et peut-être qu'il va falloir qu'on fasse une idée de cette... parce que je suis sûre que tu aurais plein de choses à raconter, mais c'était tellement passionnant. J'aimerais quand même rapidement parler de ton enfance, en fait, d'où tu viens, pour qu'on apprenne à te connaître un petit peu mieux. Est-ce que tu pourrais rapidement nous parler justement de où tu es née, comment tu as grandi? Donc, je saute complètement du coq à l'âne, hein, mais histoire quand même qu'on puisse, au-delà voilà, de l'intelligence et des concepts, mettre en fait un peu plus d'émotion justement derrière ta personnalité.
D'accord. Et en effet, il y a quand même un lien avec raisonnement critique avec mon enfance. Donc, peut-être ça revient à ce. En fait, j'étais née à Boston parce que mon père, il a fait ses études aux États-Unis. Mais j'ai grandi en Corée, à Séoul. Quand j'avais 6 ans jusqu'à 14 ans. Et après, je suis allée au pensionnat et j'ai terminé toutes mes études aux États-Unis. Mais pourquoi je parle de mon enfance en Corée? Parce que c'était la période où, Corée du Nord et Corée du Sud, on est toujours en guerre. Mais il y avait énormément de propagande quand j'ai grandi. Et en effet, moi, j'ai des souvenirs à l'école. Au lieu de, pour art plastique, on faisait des fiches en peinture de propagande anti-Corée du Nord, etc. J'avoue, j'étais pas totalement à l'aise, peut-être également parce que mon père, il est avocat. Et sa passion au dîner à table, moi j'ai un frère et une sœur, était de lancer des débats à table. Bon, ma mère détestait parce que facilement, il y avait un des trois qui vont terminer en pleurant parce que notre propre avis n'était pas un peu le force du dîner, etc. Mais mon père, il aimait bien toujours lancer des débats au dîner. Donc, probablement, j'ai grandi avec cet esprit de raisonnement critique dans un environnement où c'était presque interdit en Corée. Donc ça, c'est côté mon enfance et probablement qui explique un peu côté biculturel également parce que j'ai passé donc jusqu'à 6 ans aux États-Unis en Corée. Après, je suis arrivée au lycée qui était au milieu des champs à New Hampshire pour un pensionnat quand j'avais 14 ans. Et ensuite, j'ai terminé mes études à Princeton et après, j'ai fait mon MBA à Harvard Business School. Et j'ai travaillé aux États-Unis avant de venir en France en 2004.
Si on revient à cette période de ton enfance et du débat, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, tu as appris aussi à t'exprimer sans avoir peur un peu d'un conflit. Et je pense qu'aujourd'hui, moi en tout cas, je le ressens personnellement, mais je le vois beaucoup autour de moi, beaucoup de personnes ont envie d'être acceptées et donc n'osent pas aussi parfois sortir des sentiers battus, dire ce qu'ils pensent réellement ou juste dire non, parce qu'ils ont peur du conflit. J'ai le sentiment que toi, finalement, grâce peut-être justement à cette culture quoi familiale, du débat, t'as pas eu cette crainte. Peut-être que je me trompe.
Non, je crois que l'ironie, c'est que en plus, n'oublie pas que Corée, c'est un pays de confucianisme à la base. Donc, par exemple, la culture de Corée, c'est que moi, je n'avais pas le droit d'adresser la parole à mon grand-père s'il ne m'a pas posé une question. Donc, c'est quand même hyper hiérarchisé, mais en effet, mon enfance à la maison, c'était très différent. Peut-être il y a un autre côté qui me laisse, je dirais le mot oser, c'est parce qu'au final, je suis minoritaire dans n'importe quel environnement. En fait, j'étais un peu minoritaire, même si je suis 100% coréen, quand je suis arrivée en Corée, ma première année à l'école, les gens disaient, tu parles en coréen avec un accent anglais, américain. Comme je parle en français avec un accent américain. Donc, en fait, est-ce que c'est un peu lié avec le fait que je n'étais jamais vraiment totalement, pas une question d'acceptation, mais en fait, je ne ressemblais pas.
Mais t'étais pas dans un moule, quoi.
Les gens autour de moi, nulle part de mon enfance ni aujourd'hui, objectivement. Donc, peut-être c'est une des forces qui me permet, parce que je sais que je suis déjà différent dans un conseil d'administration. En France, c'est différent grâce à la nouvelle loi, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, par exemple, on est une des seules femmes parmi dizaines d'hommes, souvent. Donc, c'est vrai que j'étais jamais dans la moule. Donc, peut-être ça m'a aidé à accepter que j'étais en tout cas différente dans n'importe quelle situation. Donc, je peux m'exprimer différemment aussi.
Mais c'est intéressant, du coup, parce que je trouve que ça se pose des questions pour nous tous, de se dire que finalement, cette différence, elle fait peur. Et j'imagine que ça n'a pas toujours été facile pour toi. Mmh. Mais d'un autre côté, elle t'a aussi apporté énormément de choses.
Absolument.
Et donc, la cultiver, finalement, est important, même quand on fait partie d'une communauté dans laquelle, au contraire, on est un peu dans un moule. Réussir à montrer cette différence,
oui,
nous permet aussi d'avoir plus de recul, plus de discernement, tout ce que tu évoques. T'as souffert quand même un petit peu de cette différence par moment?
Oui, bien sûr. Non. Écoutez, aujourd'hui aux États-Unis, il y a un majeur mouvement anti-asiatique, etc. Bon, oui. Est-ce que j'avais ce sentiment de temps en temps? Absolument. Est-ce qu'en étant femme, je me sentais un peu discriminée de temps en temps professionnellement? Absolument. Non, j'ai vécu, mais je crois que l'importance, c'est que ça ne. En fait, il faut juste. Il ne faut pas ignorer, mais il ne faut pas être paralysé à cause de ça. Et ça, c'est la force qu'on peut tous, je crois, que trouver en soi-même, quoi.
Quand ça a pu t'arriver, justement, quelle était ton attitude en général? Quand tu sentais, pas grand-chose, mais une petite tique, un petit message où tu sentais que finalement, voilà, t'avais pas forcément été accepté pour qui t'étais. Comment tu réagissais?
Moi, quand j'aime pas quelque chose, je cours. Donc, en fait, chacun réagit un peu différemment. Et je crois que ça, c'est très important pour les gens de savoir, encore une fois, comment gérer nos propres émotions ou quand on se sent agressé. Et il y a des gens qui vont faire la méditation. Moi, je fais du sport parce que ça m'aide à... On peut sortir de cet environnement parce que le pire, c'est de rester avec... Parce que objectivement, n'oublie pas, quand on est un peu agressé ou il y a un petit mal, etc., c'est fortement probable, c'est quasiment la totalité liée avec l'insécurité d'autres qui t'a agressé, en fait. Donc, en réalité, c'est peut-être probablement même pas personnel. Mmh. Mais on se personnalise parce que c'est humain. Donc, la meilleure façon pour nous, je trouve que c'est de trouver chacun leur façon de comment éjecter ça et accepter pour avancer. Et pour moi, c'est du sport.
Du sport et pas de confrontation pour le coup, mais juste de voilà, se dire la personne en face, elle a ses problèmes.
Moi, je vais... En fait, quand j'étais plus jeune, j'avais plus peur de confrontation. Mm. Je crois que je n'aurais pas... En fait, je n'ai pas osé forcément même faire des remarques derrière. Avec l'âge, maintenant, j'avoue que, par exemple, quand j'entends quelque chose qui est en effet discriminatoire vis-à-vis des femmes, je fais une remarque. Mm. Et j'essaie de corriger poliment. Mais je fais un point pour que cette personne sache que ce qu'il vient de dire, c'était pas adapté. Mm. Mais j'avoue, quand j'avais 25 ans, 26 ans, j'ai pas osé. Mais aujourd'hui, je dis.
Mais t'as bien raison, c'est par petites touches qu'on fait changer les choses.
Exactement.
Pour terminer, Hélène, j'ai des grandes questions que j'aime bien poser à la fin de mon épisode. La première, c'est est-ce que dans ta vie personnelle, professionnelle, tu aurais vécu un grand échec qui a été un peu ton blessing in disguise, c'est-à-dire un échec qui, en réalité, t'a appris des choses sur toi, sur ton métier, sur ta vie. Bref, que tu nous parles un peu de ça et des enseignements que t'en as tirés.
Moi, j'ai vécu plein de petits échecs, mais rien qui a fondamentalement changé ma vie. Donc, c'est vrai que moi, j'étais toujours dans l'esprit, pour chaque échec, il faut avancer, etc. Mais peut-être il y a un échec personnel. Je me suis mariée très tard. Je me suis mariée à 36 ans parce que j'étais fiancée deux fois avant et c'était rompu. Voilà. Donc, j'ai pas géré ma partie émotionnelle, personnelle. Et en réalité, maintenant, je me suis mariée avec mon mari depuis... ça fait 15 ans, donc heureusement. Mais j'avoue que je ne cache pas, j'ai eu Daphné à 38 ans. Donc, de faire un deuxième enfant, c'était dans nos projets qui n'a pas abouti. Bon, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai une fille, donc je suis ravie. Mais est-ce que ça c'est un échec? Est-ce que j'aurais mieux géré? Point d'interrogation. Mais en effet, ça c'était une difficulté, ça c'était une période difficile que j'ai assumée parce que je savais en se mariant un peu tardivement, etc., c'était plus compliqué aussi. Mmh.
Est-ce que s'il y avait quelque chose qui était à refaire dans ta vie, qu'est-ce que tu referais différemment?
Je crois que j'aurais osé à dire, c'est dans la même veine. J'aurais préféré que Ellen Liebwig, à 23 ans, 24 ans, aura pu oser à dire des choses qui n'étaient pas correctes aux gens, ce que je fais aujourd'hui. J'aurais bien aimé avoir eu le courage plus jeune, professionnellement, de dire des choses. Mmh. Ça, c'est mon regret.
Je pense que beaucoup de personnes le ressentent. Une maxime, des mots de sagesse, une citation qui t'a particulièrement touché, marqué, que voilà, qui te plaise tout simplement et que tu pourrais partager avec nous.
C'est pas un maxime ou un mot, mais c'est un peu philosophie professionnelle. Moi, j'étais toujours dans l'esprit que s'il faut faire un choix ou une décision, il faut toujours poser la question, est-ce que cette décision crée plus des options ou ça ferme des options? Je crois que professionnellement, ça m'a beaucoup servi cette réflexion parce que souvent, professionnellement, on veut devenir l'expert très vite. Parce qu'on pense qu'en devenant l'expert très vite, ça va nous aider à monter professionnellement. Mais peut-être, en faisant ça, on ferme les options. Et quand je réfléchis professionnellement, en fait, ce qu'on a pensé on va faire, on ne fait jamais. Ça, c'est quasiment 100% certain. Donc, d'autant plus, professionnellement, individuellement, je crois qu'il faut toujours réfléchir dans les décisions. Est-ce que ça va fermer mes options ou ouvrir les options?
Hyper intéressant. Encore une question, est-ce que tu as une croyance qui n'est pas universellement partagée, c'est-à-dire qui est assez controversée? Je te donne un exemple, une personne m'a dit que les personnes plus âgées en fait ne sont pas plus sages, qu'au contraire elles ont de plus en plus de biais de confirmation et qu'il faut arrêter de penser que les personnes âgées sont plus sages. Ça peut être autre chose.
Bon, déjà, ça, je confirme, c'est pas le cas. Et donc, je vais juste raconter une petite histoire parce que tu viens d'évoquer. Donc, une des études que la Fondation Reboot a fait, on parle beaucoup de clickbait. Je ne sais pas comment ça se traduit en français, mais ça veut dire qu'en Twitter, quand il y a un article avec les mots un peu flashy, les gens ne lisent pas l'article, mais ils forward. Ils forward aux autres, etc. On dit souvent que les grands-parents, les personnes âgées, ils sont plus susceptibles à forwarder, à envoyer des articles avec les tags très émotifs, etc. Et que les jeunes adultes ne font pas ça. Avec notre expérience, ça montre que, en fait, les jeunes adultes, que nous, on compte entre 20 à 35 ans, ils étaient susceptibles à 72% à clickbait, versus plus de 60 ans à 81%. Donc oui, en effet, les personnes un peu plus âgées étaient plus susceptibles, mais pas beaucoup plus.
Oui,
hein.
On parle
de 72% versus 81%. Mmh. Donc ça montre qu'encore une fois, côté fake news, etc., même les jeunes adultes sont très, très susceptibles
aussi.
Oui,
très concernés, en fait.
Mais ça n'a pas répondu à ta question. Donc...
je vois que tu évites le sujet.
Mais reviens à ta question, je suis désolée.
Est-ce qu'il y a une, est-ce que tu as une croyance qui n'est pas universellement partagée, qui est plutôt controversée?
Non, je crois que une chose que j'ai écrit mon thèse à Princeton sur Schumpeter. Donc j'ai quelques croyances côté business quand même, qui est un peu schumpeterienne à la base, que je sais que c'est pas du tout partagé avec tout le monde, mais fondamentalement, économiquement, je suis quelqu'un assez libéral parce que je crois que les affaires, le modèle économique est comme les gens, ça évolue il faut juste accepter ça et ne pas essayer de trop freiner. Donc, je sais que ça, ce n'est pas quelque chose que je partage.
Mais l'audience est très ouverte d'esprit. Donc, ne t'inquiète pas, Hélène.
Merci.
Pour terminer, dernière question. Est-ce qu'il y a un livre ou un objet culturel qui a été particulièrement important dans ta vie? Ton livre préféré, etc. Ou celui que tu recommandes peut-être le plus autour de toi? Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu?
Je vais parler d'un livre qui était ma préférée américain et après je vais parler d'un livre qu'en français m'a recommandé, que j'ai beaucoup apprécié. Donc, j'ai toujours apprécié le livre Catch 22 par Joseph Heller. Ça se lit assez facilement et pour vous pendant l'été, c'est pas mal comme un livre.
C'est à quel sujet? Je ne connais pas.
En fait, vous savez ce que ça veut dire Catch 22? Donc, Catch 22, c'est quand c'est une situation un peu compliquée, comment détourner la situation, etc. Et ça parle de guerre, mais il y a quand même humour dedans, etc. Et le livre lui-même est un peu un Catch 22. Donc, il y a plein des éléments différents qui fait quand même une littérature assez intéressante. Et moi, quand je suis arrivée en France, quelqu'un m'a recommandé Romain Gary, La promesse de l'aube, que j'ai énormément apprécié.
Magnifique, magnifique. Hélène, c'était passionnant. Je te remercie pour ton temps. J'ai passé vraiment un moment merveilleux en ta compagnie. Si jamais on veut te suivre peut-être sur les réseaux sociaux, bon, alors déjà, on va sur le site de la Fondation Reboot. Ouais. Est-ce que d'ailleurs, en tant que particulier, on peut aider, contribuer ou c'est pas possible? C'est vraiment plutôt pour des entreprises?
Donc, nous, tant que fondation, on n'accepte pas les donations. Donc ça c'est vraiment juste nous qui finance. En revanche, si vous venez à notre site internet, vous pourrez vous inscrire sur un newsletter et dans ce cas-là, tous les articles qu'on publie, etc., vous aurez une alerte régulièrement. Donc notre site internet c'est reboot reboot-foundation.org. Et là, on essaie de publier le plus possible. Et à partir de septembre, on va essayer de faire beaucoup plus de traductions de nos articles qui sont en anglais aujourd'hui.
Qui sont en anglais. Mais oui. L'audience de ce podcast m'a souvent envie de parler très bien anglais, donc ne t'inquiète pas
très
aussi
bien,
là-dessus.
Très bien.
Et à titre plus personnel, si jamais on veut te suivre, c'est possible peut-être sur LinkedIn, etc.
Absolument, absolument. Je
très
suis
bien.
Sur LinkedIn, etc.
Bon, je mettrai tous les liens. En tout cas, merci mille fois.
Merci beaucoup, Pauline.
Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du6gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaie d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc sous le pseudo Pauline Léniaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi, et je sais que c'est pénible à faire, mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute, et avoir des notes en fait permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter Le Gratin, à faire partie de cette communauté, bah c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes. C'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes. Donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand, grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.